J'avoue que l'audition de la première communication m'a un peu attristé, parce qu'une partie de ce que j'allais dire se retrouver dans vos propos. Entre-temps, pour me remonter le moral, je me suis dit qu'après tout, il y avait le précédent de Gregory Bateson qui décrit la même cérémonie de points de vue différents, finalement. Et également, mon inquiétude a été grande quand vous avez parlé de théorie des conventions et d'approche pragmatique, parce que je me situais effectivement dans une subdivision des approches pragmatiques. Donc je vais quand même essayer de traiter ma communication, mais vous verrez qu'à un moment donné, nous nous retrouvons sur la question du soin des animaux et du grignalage. Voilà. Donc je vais traiter de la question de la relation entre halal et bio, c'est-à-dire entre deux labels. Le matériel est constitué par une centaine de pages internet traitant de ces thèmes, sites spécialisés, halal ou bio, et commentaires d'internautes. Alors je précise aussi que le but poursuivi n'est pas d'accéder à ce qui se dit sur le web. Ce n'est pas une étude de la communication sur le web, mais plutôt d'accéder à ce que l'on peut dire à partir de ces deux labels. En d'autres termes, le web est traité comme une ressource pour une enquête cognitive. On pourra obtenir des ressources semblables dans le discours des gens, mais l'avantage du web est dans la possibilité des développements qu'il offre, puisque d'une certaine manière, dans le web, les gens font un effort pour développer un certain discours, et de ce point de vue, pour s'intéresser à certaines opérations cognitives, c'est plus simple, mais ce n'est pas le seul matériel possible. Le traitement sera pragmatique, plus exactement praxéologique, et j'utiliserai de manière modérée les notions de grammaire, de jeu de langage, de forme de vie mises en avant par Wittgenstein. Je ne reviendrai pas sur le détail de son point de vue, ce n'est pas le lieu, et donc il n'y a pas de raison d'en discuter davantage. Alors, dans une première partie, je situe rapidement mon approche, après quoi je donne trois exemples d'argumentation dont a été développé, et enfin je proposerai un commentaire en m'intéressant à la dynamique éthique du bio et du halal. Alors, situer mon approche. D'un point de vue pragmatique, les idées, les représentations et les croyances n'existent que dans le langage. Vous connaissez tous la remarque de Wittgenstein, du premier, mais le second ne le contredit pas, selon laquelle le langage est mon monde. De ce point de vue, donc, Dieu n'existe que dans le langage. Essayez de penser à Dieu sans le langage, eh bien, vous ne savez tout simplement pas de quoi vous parlez. Bref, si une représentation existe, elle existe toujours dans le langage. De ce point de vue, elle est, pour utiliser le terme de John Searle, épistémologiquement objective. Quoi que je pense de son contenu de vérité, Dieu est compréhensible. Je veux dire, même un athée peut vous dire ce qu'est Dieu. Il ne sera pas d'accord sur le fait que Dieu existe, mais un athée pourra comprendre ce qu'est Dieu. Un athée fera une différence forte entre Dieu et une licorne, par exemple, ou n'importe quel autre être surnaturel. Une conséquence remarquable de cela, du fait que les dieux et un certain nombre de termes importants des religions, le halal, et toutes sortes de termes semblables, que ces termes n'existent que dans le langage, c'est qu'ils ont sujet à des mélanges possibles. Je peux dire le trône de Dieu, avec beaucoup d'emphase dans la voix, mais je peux dire le trône de Dieu est une métaphore, ce qui est déjà une réduction, ou je peux dire d'un point de vue surréaliste, le trône de Dieu est en plastique orange. Le mot trône et la notion de trône de Dieu ne se révoltent pas contre ces mixages dans différents jeux de langage. Le langage, donc, met ces trois phases en équivalence, ainsi que la dénomination trône de Dieu. D'un point de vue externe, on ne dira pas la même chose, bien sûr. Les valeurs d'usage sont différentes. Nous en retiendrons l'idée que les mots peuvent être distribués dans différentes propositions et que cette distribution dépend des usages et non d'un sens intrinsèque ou d'une majesté propre aux mots. On remarquera surtout que le même mot peut exister dans des jeux de langage différents. Dieu, donc, n'est pas approprié à un jeu de langage. Je fais une précision, quand je dis ça, je ne dis pas que Dieu n'existe que dans un jeu de langage. Je dis que Dieu existe dans le langage, en général, et qui peut effectivement avoir des déclinaisons différentes selon le jeu de langage dans lequel on le situe. C'est la même chose avec le halal, mais ça pourrait être la même chose avec d'autres termes. La question se pose après de ce que l'on voit quand on s'intéresse aux jeux de langage eux-mêmes, tels qu'on peut les consulter sur le web. Ici, on évoquera l'objection de la représentativité. Est-ce que ce que je vois sur le web a un sens ? Est-ce que ça représente des pratiques ou quoi que ce soit d'autre ? Mais la représentativité n'est qu'une des deux questions que l'on peut poser. Elle est d'ordre strictement biologique. Elle a trait à la distribution d'un terme ou d'une acception d'un terme à l'intérieur d'une population. Mais on peut aussi poser une question d'ordre anthropologique. Quelles sont les opérations cognitives que peuvent subir certains termes, c'est-à-dire dans combien de jeux de langage peut-on les inclure ? On ne teste pas ici la distribution sociale, mais les possibilités combinatoires de la cognition, c'est-à-dire des facultés ordinaires de l'esprit. Ces facultés s'expriment dans le langage. Elles ne peuvent pas s'exprimer autrement, elles sont ordinaires, parce qu'elles s'expriment dans des circonstances normales. En fait, la faculté qui m'intéresse ici et dont je vais parler, c'est la possibilité de recatégoriser un terme selon les jeux de langage. Cette fluidité cognitive qui permet la recatégorisation des termes. Je dis fluidité cognitive, je ne fais absolument pas allusion à des travaux de cognitivistes, mais le terme est tout à fait valable dans un usage superficiel. Alors, j'avais ici trois exemples. Je vais vous lire le premier qui, pour l'instant, est original. Il est donc tiré d'un... Je préférais vous lire quelques exemples de manière un peu consistante plutôt que de rentrer dans des généralisations en illustrant par un ou deux mots. Le premier est tiré d'un site cosmétique halal. Donc c'est la première page de ce site. Le halal n'est pas une étiquette, mais une éthique à part entière. Le licite en islam ne se résume pas à une certification, à un rite d'abattage pour la viande, par exemple. C'est toute une manière de se positionner, des valeurs qui nous pousseront à réfléchir à notre consommation en nous rappelant que nous serons interrogés sur tout, y compris sur nos dépenses. Nous devons donc nous comporter en consommatrices responsables et non seulement en victimes d'un business de plus en plus développé. Ayant émergé depuis quelque temps à l'étranger, les cosmétiques halal ont débarqué en France plus récemment. Sont-ils encore un moyen de nous faire acheter plus, de surfer sur la vague, de rafler un marché plein de promesses, ou pouvons-nous attendre plus ? Ce que l'on peut considérer comme un produit cosmétique halal, c'est un produit en accord avec nos interdits, mais aussi avec nos valeurs, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de substances illicites, telles que la graisse animale ou l'alcool. À ce moment-là, sur le site, vous avez un renvoi un site à tendance scientifique qui fait la différence entre les types d'alcool, celles qui sont des alcools de synthèse, celles qui sont des alcools à base de fermentation. C'est développé quand même sur une bonne page. Je ne vous fais grâce de ces précisions scientifiques qui n'ont pas un intérêt majeur ici. Mais la référence est intéressante. Ou l'alcool sans parfum, mais aussi qui n'est pas testé sur les animaux, qui respecte l'environnement, et qui ne contient pas de substances toxiques ou nocives pour l'organisme. Notre corps est une amana d'Allah, un dépôt dont nous devons prendre soin quand nous le rendrons à son créateur très bientôt. Il va de soi que toutes les substances nocives pour le corps et la peau sont à proscrire. Parallèlement, l'islam nous demande de soigner notre hygiène et notre apparence. Tant que nous ne tombons pas dans l'ostentation, et que nous réservons notre beauté à ceux qui sont autorisés à la voir. L'envoyé d'Allah a dit « Aucun homme qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain d'orgueil n'entrera au paradis. » Un homme présent dit « Mais l'homme aime que son vêtement et ses chaussures soient beaux. » Il lui dit « Allah est beau et il aime la beauté. » Mais quel produit utiliser pour notre hygiène corporelle, nos soins et notre maquillage ? Comment pourrions-nous faire semblant d'ignorer que notre peau s'abreuve de produits chimiques à longueur de journée, absorbe des doses non négligeables de produits illicites, que nous ingérons même par la bouche quand il s'agit de substances contenues dans un rouge à lèvres, par exemple ? Comment pouvons-nous aussi accepter d'utiliser des produits testés sur les animaux, par exemple les lapins aux yeux hypersensibles à la douleur, alors que le prophète a dit, je cite, alors qu'un homme marchait sur la route, voilà qu'il ressentit une grande soif. Il trouva alors un puits. Il descendit et but l'eau du puits. En remontant, il vit un chien haletant et léchant la terre humide, tellement il avait soif. L'homme se dit, ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi-même. Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure, l'atteint avec ses dents et remonta. il en abreuva le chien et Allah loua son acte et lui pardonna ses péchés. Ils dirent, ô messager d'Allah, avons-nous une récompense pour nos bonnes actions envers les animaux ? Il dit, pour celui qui fait du bien à toute créature vivante, il y a une récompense. Pour toutes ces raisons, nous devons veiller au caractère licite des produits que nous utilisons. Si nous partons de ce constat, les produits bio sont pour la plupart halal, bien que non certifiés comme tels, et valent en tout cas mieux que les cosmétiques traditionnels. Le site est très intéressant, vous pouvez commander toute une série de choses. Il y a même une page réservée aux rouges à lèvres traditionnels qui n'utilisent pas les pigments. Alors, le deuxième est tiré d'un site islamique francophone qui fait la publicité pour Green Halal. C'est là où je me suis senti mal à l'aise. Je vous le cite quand même, mais c'est une version très, très, très abrégée. Alors, ce site présente le site Green Halal et note, ainsi que l'a dit notre collègue, qu'il procédera à l'abattage le troisième jour, et ce, afin de garantir une véritable éthique islamique de l'abattage et de maintenir ainsi le caractère sacré de la fête. Ce sera donc le jeudi 17 octobre, à plus ou moins un jour. Pour rappel, l'abattoir en bonne et due forme avec vétérinaire est entièrement exclusivement réservé aux membres de Green Halal afin de garantir un maximum l'éthique de l'abattage. En effet, les animaux ne se voient pas durant le sacrifice, ils sont pris un par un. Les animaux suivront un traitement homéopathique, donc c'est une sorte de phytose, si j'ai bien compris. C'est de l'ophytose. Donc il manquait une substance, il y en a quatre dans l'ophytose, si je me souviens bien. Pour commander votre mouton, confirmez votre commande sera uniquement prise en compte après réception d'un acompte de 200 euros. Bon, je passe là-dessus, j'arrive à la troisième, qui est une contradiction, sur un site bio anti-halal, cette fois, à propos de la décision d'Écosser d'accorder le label AB de la viande halal. Elle laisse un goût amer à ceux pour qui il existe une incompatibilité totale entre le bio et le halal. S'il reconnaît que cet événement a le mérite d'avoir relancé le débat, Frédéric Freud, directeur de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, parle d'une véritable trahison pour le consommateur. L'association a ainsi lancé une pétition relayée sur Facebook qui, fin novembre, recueillit plus de 8000 signatures. Son intitulé est clair. Non à la certification bio de la viande issue de l'abattage rituel, animaux égorgés conscients. L'abattage est l'annulation pure et simple de la certification délivrée par Écosser à la marque Tendre France. Deux problèmes en effet se posent. D'une part, la douleur infligée à l'animal serait plus importante dans le cas d'un abattage rituel. À ce niveau, l'abattage expert est engagé. D'autre part, l'absence monstrueuse de contrôle dans les abattoirs, c'est une citation à l'intérieur de la citation, comme sans doute pour les produits conventionnels, un consommateur pourrait ainsi acheter de la viande bio-halal sans le savoir. La profession tente de recadrer les choses, rassure Luc Marie, directeur, etc. etc. Donc là, c'est un site anti-mélange bio-halal qui explique que, bien évidemment, il y a une incompatibilité. J'en arrive donc à mes commentaires qui, je l'espère, sont originaux, mais je les ai perdus. c'est le problème d'avoir plusieurs pages. Alors, si j'ai... Ah, ça y est, je les ai retrouvés. Alors, j'en arrive à mes commentaires que j'ai retrouvés. Ce qui est intéressant dans les deux premiers exemples, c'est que nous avons affaire à deux c'est que nous n'avons pas affaire à deux labels juxtaposés. Nous n'avons pas d'un côté le halal et de l'autre le bio. On assiste au contraire à une mise en continuité, à conformité des deux labels, c'est-à-dire, en fait, dans les termes que je vous ai proposés, à une inclusion des deux labels dans le même jeu de langage. Alors, nous avons un premier jeu de langage qui est simple, c'est bio. Le bio, c'est une diète et une éthique, mais le halal, c'est également, tel qu'il nous est présenté, une diète et une éthique. Il faut d'abord concevoir que la réduction du halal à l'éthique n'a rien d'évident. C'est pour cela, en fait, qu'elle est intéressante. Elle n'a rien d'évident parce que l'éthique, pour le dire vite, prescrit des devoirs moraux qui n'ont pas nécessairement de portée rituelle et qui ne représentent pas un service divin. C'est traditionnellement un ensemble, je tiendrai, de devoirs vis-à-vis des autres et éventuellement, alors que l'on puisse y trouver à redire, vis-à-vis de soi. Ça, c'est une discussion entre les philosophes moraux. De plus, elle implique une forme de rationalité. On sait pourquoi on le fait et pourquoi il faut le faire. De sorte qu'il faudrait le faire, en fait, même si Dieu n'existait pas. C'est pas du tout la même chose en ce qui concerne le sacrifice. Le sacrifice n'est pas un devoir moral, c'est une obligation vis-à-vis de Dieu. D'un point de vue éthique, cette obligation est donc problématique. Elle ordonne de tuer, et jusqu'à un certain point de faire souffrir, sans raison autre que la volonté d'un être divin. De ce point de vue, la préparation de l'animal qui nous a été décrite, et que j'ai prise dans le deuxième exemple, est intéressante, puisqu'il s'agit de réduire sa souffrance émotionnelle. Nous avons d'un côté une obligation religieuse, et de l'autre une obligation morale. La différence est claire. Obligation religieuse, service divin, sacrifice, devoir moral, réduire la souffrance. Ni l'un ni l'autre, quand on est dans cette perspective, ne peuvent l'emporter. Du coup, les tenants du devoir moral de réduire la souffrance ne peuvent pas facilement accepter l'idée d'un service divin. C'est ce que montre le troisième exemple, qui introduit une forte tension entre les deux conceptions. Mais en même temps, si la continuité est problématique, elle est très argumentable. La réduction à l'éthique rend l'argumentation parfaitement possible. Et elle rend l'argumentation parfaitement possible dans un langage qui peut être un langage commun, qui est de plus en plus partagé dans nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire la question du langage éthique. Alors il en découle, premièrement, l'extension du domaine du halal à l'éthique, et deuxièmement, la formulation, qui était peut-être plus imprévisible, mais qui est une conséquence de la situation précédente, la formulation d'une éthique animale du halal, qui probablement est une conséquence involontaire, mais qui est apparue dans le cours de la discussion avec les tenants du bio. Alors bien sûr, on explique dans différents exemples cette extension en faisant référence à une tradition. Cela consiste à montrer qu'on a des raisons endogènes, propres à l'islam, d'accepter une orientation exogène. Mais la cause de la mise en œuvre de ce raisonnement, c'est bien la reconnaissance d'une norme autre, d'une norme qui n'a finalement rien de religieux. On retrouve ce mécanisme avec les droits de l'homme ou de la démocratie qui serait déjà, dans le Coran. Sauf que l'on sollicite le Coran sous l'impulsion de quelque chose qui n'a rien à voir ex ante avec le Coran ni avec l'islam. Je suis à ma conclusion. Le bio-halal montre deux choses qui sont intéressantes du point de vue de la conception que l'on peut se faire de la religion et secondairement de l'islam en tant que religion, bien sûr, qu'une religion n'est pas à elle seule un jeu de langage. Parce que les notions liées au religieux peuvent figurer dans d'autres jeux de langage, notamment celui de la morale qui possède sa spécificité. C'est ce que l'on peut retenir d'une approche utilisant les notions utilisées par Wittgenstein. C'est la démonstration désormais classique de Fergusquer. Elle portait sur le christianisme, mais elle fonctionne tout aussi bien avec l'islam. Alors évidemment, il y a des conséquences sociologiques importantes, je ne vais pas revenir sur ces conséquences sociologiques importantes. Les conséquences sociologiques importantes, c'est s'il y a plusieurs jeux de langage qui sont possibles à la référence religieuse, ça veut dire qu'il peut y avoir une multiplicité de systèmes d'action au nom de cette référence, et également une forme de solidarité sans consensus, c'est-à-dire d'utiliser la même référence dans des optiques totalement diverses. Et c'est extrêmement intéressant pour comprendre mon deuxième point de conclusion, que l'islam n'a pas plus qu'une autre religion, d'ailleurs, être considéré comme un discours normatif, unifié, simple. C'est un non-sens que de le considérer comme tel. L'halal ne démontre pas l'empire d'une norme, mais bien au contraire, la plasticité d'un terme et la possibilité, ce qui probablement maintient la force des religions, de voir les termes qui les caractérisent migrer à travers des jeux de langage qui, initialement, n'ont pas de rapport avec elles. J'ai tenu le temps. Finalement, si j'avais dû développer mon exemple, je n'aurais pas pu. Je vous remercie donc de l'avoir si bien développé.